les journalistes, eh bien, sont interrogés collectivement par les Français, puisque environ 60% d'entre eux posent la question de leur indépendance par rapport au pouvoir politique, et ils sont presque aussi nombreux à la poser par rapport aux pouvoirs économiques et à l'argent.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
J'ai toujours trouvé étrange ces sondages d'opinion qui évaluent la confiance que prêtent les individus aux organes de presse ou aux journalistes. Il y a tellement de types de médias et de qualités de publications différentes que cela me paraît absurde, voire malhonnête, de classer tout le monde ensemble. Que pensez-vous des restaurateurs? Que pensez-vous des écrivains? Que pensez-vous des chanteurs? Que pensez-vous des plombiers? C'est sûr que si l'on pose ce type de questions à un individu, il aura toujours quelque chose à dire, à penser. Il est également certain que sa réponse aura une importance toute relative. Il ira au restaurant, il appellera un plombier, il écoutera des chanteurs, il lira des romans, tout cela selon ses choix, ses envies, ses goûts. Par quel miracle mettre tous les médias dans le même sac pour les juger aurait une valeur informative plus importante? Les plus grands détracteurs des médias sont d'ailleurs les premiers à les citer, les partager, les commenter, se tourner vers eux quand ils ont besoin de s'informer. Ils savent ou se doutent que Le Parisien, Le Monde, Libération, BFM, le JDD, TF1, France 2, LCI ne se valent pas. Je suis même convaincu qu'ils se sont rendus compte que tous les journalistes ne sont pas identiques au sein de ces médias. Certains sont précis, d'autres brouillons, certains tout jeunes, d'autres aguerris. Que pensez-vous des journalistes? Classez votre confiance par type de médias, papier, radio, télé, web. Toutes ces opinions sont absurdes. Ce qui achève de me convaincre de la toxicité de ce type de sondage, c'est quand je regarde les médias nés de cette défiance. Ces milliers de sites, de pages Facebook, de comptes Twitter qui annoncent d'emblée qu'ils n'ont plus confiance dans les médias traditionnels et que par conséquent, ils ont lancé leurs médias alternatifs. Infos non sourcées, usage permanent du conditionnel, rumeurs, en veux-tu, en voilà, désinformation, manipulation, triche, partialité, voilà ce que produit presque systématiquement la défiance envers les journalistes. Un grand n'importe quoi toxique et dangereux. Ne vous méprenez pas, je ne fais pas dans le corporatisme premier degré. Je n'ai pas confiance dans tous les médias, même au sein de médias que je respecte. Il y a des signatures dont je me méfie. Je vois et dénonce comme vous des abus, des courts-circuits, des travers, des collusions. Mais quel que soit la taille de mon sac à critique, je n'y mets pas et n'y mettrai jamais tout le monde. Voilà qui est dit, bienvenue dans l'atelier des médias. Je suis dans mes petits souliers maintenant car l'émission d'aujourd'hui va vous parler d'un grand sac où il y a beaucoup de monde. Des cathos intégristes, des néo-païens, des fascistes convaincus, des nostalgiques du national-socialisme, des opportunosionistes, des antisémites, des anti-musulmans, des racistes, des xénophobes, des conspirationnistes, des réinformateurs. Le mot qui rassemble trop souvent tous ces courants hétéroclites est, vous l'aurez peut-être deviné, fachosphère. Il est né il y a une petite dizaine d'années, bien entendu. C'est un concept trop vague, trop flou, trop large. Il est décrié par pratiquement toutes celles et ceux qu'il désigne. Notre invité du jour vient de lui consacrer une longue enquête titrée « La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net ». Bonjour David Doucet.
Bonjour.
Tu es journaliste aux Inrecuptibles, co-auteur tout récemment de La politique malgré elle sur la jeunesse de Marine Le Pen et aussi avec Dominique Albertini de La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net, publié chez Flammarion il y a quelques mois, en septembre dernier précisément. Et c'est le livre qui nous rassemble. Peut-être quelques mots sur ce projet et sur le terme de fachosphère pour commencer.
On s'était rendu compte avec Dominique, donc journaliste à Libération, que depuis quelques années, il y avait un continent politique sur la toile qui était en perpétuelle croissance et qui avait, à notre grand étonnement finalement, qui n'avait pas fait l'étude même d'études universitaires, peut-être parce que le médium, l'internet, n'est pas encore totalement
maîtrisé
par les universitaires, je ne sais pas. Mais on s'était étonné de voir que finalement, il y avait peu d'études françaises et pas de livre encore sur le sujet, donc on s'est dit qu'il y avait matière à apporter quelque chose peut-être sur l'histoire de ce continent. Et donc du coup, là, dans ce livre, on essaie de remonter du début, des années à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui.
Et pourtant, le terme fachosphère est un petit peu problématique parce qu'il met ensemble toutes sortes de courants qui, bon, quelques points communs les uns entre les autres, mais tous ensemble sont quand même très différents.
Ouais, c'est une appellation qui est restée en fait, dont Daniel Schneiderman, qui est le patron de Rêve sur Image, revendique la paternité. Mais c'est vrai que c'est pas un terme.
Une dizaine d'années l'appellation.
Oui,
petite dizaine d'années.
Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas un terme scientifique, c'est un terme assez péjoratif. Personne n'est appelé, aime être appelé facho. Et on a essayé de le décortiquer, de montrer son origine. Et ce qui représente aujourd'hui, pour le commun de ceux qui suivent un peu la toile, c'est la propagande d'extrême droite sur Internet, c'est-à-dire tous les sites d'extrême droite qui fleurissent sur le web français.
Ce qui nous unit, explique un des témoins que vous avez interrogé, qui s'appelle Michel Janva et qui dirige un site qui s'appelle Le Salon Beige, on va y revenir. Ce qui nous réunit, il explique, c'est d'être mal connu et maltraité par les médias.
Ouais, c'est vrai que dans cette myriade de sites qui composent la fachosphère, finalement, ils sont loin de partager la même idéologie. On a des catholiques comme Michel Janva, catholiques traditionnalistes, on a des
qui
gens
qui se présentent comme laïcs hein, sur son
oui,
site. Hein.
Ça n'empêche pas. Ouais, on a des gens comme Pierre Sautarel qui est plus identitaire, on a des gens comme Alain Soral, Dieudonné. Donc on a toute une galaxie assez différente. Mais ce qui les renie effectivement, c'est qu'ils ont l'impression d'être reniés par les médias, d'être critiqués par les médias et d'être une sorte de contre société qui aurait ses propres codes, qui aurait ses propres moyens d'action. Et du coup, c'est vrai que c'est leur seule unité finalement. C'est leur opposition commune aux médias qui renomment Merdia, Journalop, etc.
On utilise aussi d'autres termes pour qualifier donc réacosphère, réinfosphère, qui est là un terme qui peut être accepté par ces personnes qui se considèrent être des médias de réinformation.
Bah, c'est eux qui ont déposé ce terme de réinfosphère avec Jean-Yves Le Gallou, qui est un ancien théoricien du Front National qui s'est réinventé sur Internet et qui a employé le mot de réinfosphère d'abord sur une chronique sur Radio Courtoisie et puis ensuite pour dénommer toute cette sphère qui serait en fait des sites qui, selon eux, apporteraient une information qui serait tue par les médias traditionnels.
Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui si on devait chiffrer cette fachosphère? Je sais, dans le livre, vous citez un chiffre, 230 sites en 2013. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de sites parce qu'il y a toutes sortes de supports, des pages Facebook extrêmement nombreuses, etc.
Oui, je pense que j'ai pas d'études récentes là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est avec les dernières chiffres ou analyses de Leakinfluence, qui est un cabinet qui est spécialisé là-dessus, qu'ils sont en perpétuelle croissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas seulement des sites. On le voit aussi sur des comptes Twitter, sur Facebook, etc. Et c'est toute une production de commentaires, même sous les articles, qui forment cette fachosphère, qui forment cette présence en ligne de l'extrême droite. Et finalement, c'est une minorité qui est finalement, c'est une minorité, donc ils ne sont pas majoritaires encore, mais ils ont tellement l'envie de se faire entendre qu'ils donnent l'impression parfois d'être plus gros que le bœuf, d'être surprésent par rapport à des opinions plus mesurées, plus modérées que l'on pourrait voir.
Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous avons souhaité à l'atelier interroger un utilisateur des sites marqués fachosphère. L'un d'entre eux a accepté de témoigner. Il se trouve qu'il est également producteur de contenu. Il a collaboré à TV Liberté et il écrit aujourd'hui pour Présent. Son pseudonyme et nom de plume est Louis l'Orphelin. Il répond à Marie-Stéphanie Servos qui lui a tout d'abord demandé comment il s'informe.
Je prends absolument tout ce qui passe. C'est-à-dire, je m'informe à la fois sur les médias mainstream.
Donc les médias traditionnels.
Que d'autres appellent traditionnels. Et sur tous les médias de réinformation qu'on peut trouver sur Internet. Alors, pour la géopolitique, je m'informe quasiment exclusivement sur Égalité et Réconciliation. C'est un des blogs les plus consultés de France, qui a été monté il y a quelques années par Alain Soral.
Jean-Marie Le Pen a dit en 1973 que le problème en France, ça serait l'immigration incontrôlée et tout ce que ça comporte, dont l'islamisation de la France. Il avait raison.
Là, on peut lire « Égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs ».
Pour une réconciliation nationale, voilà. Donc effectivement, il y a de tout sur ce site, mais ce qui moi m'intéresse surtout, c'est pas tant les analyses du gourou Soral que sa revue de presse qui est hyper bien faite. Donc là, sur la colonne actualité, il y a toute la revue de presse.
Donc ça, c'est des articles qui sont issus de la presse traditionnelle ?
Issus de la presse traditionnelle ou de médias alternatifs mais jugés fiables. Donc ça, c'est un des médias sur lequel je m'interroge, je m'informe très régulièrement. L'autre média, évidemment, c'est F de Souche.
François de Souche.
Voilà, François de Souche, exactement. Lui, pour le coup, il ne produit aucun contenu, ce n'est que de la revue de presse. Donc le site, la ligne éditoriale du site, si tu veux, il part du problème que l'immigration est un problème et source d'insécurité. Et pose un certain nombre de problèmes, si tu veux. Et donc, ils mettent en avant, ils épluchent absolument toute la presse, que ce soit nationale ou régionale, et mettent en avant tous les faits divers. Et quand tu recoupes tous les faits divers, tu t'aperçois que la France, qui est décrite par le journaliste Laurent Berton dans son bouquin La France orange mécanique, on est en plein dedans, si tu veux.
C'est un livre qui était nécessaire, parce qu'on parlait dans le vide, et moi-même d'ailleurs, moi je vais m'en servir. Vous voyez, je l'ai, je l'ai coché, surcoché. Je peux vous dire que ça, je vais ressortir, ça va être sur mes petites notes, et c'est très bien, je vais le garder.
C'est-à-dire, du coup, tu peux me détailler ?
C'est-à-dire, bah là, c'est simple, hein, il suffit de regarder la une, Saint-Denis, violence au lycée, 50 personnes interpellées, djihadistes, la carte de France, des milliers d'individus signalés pour radicalisation. Donc voilà, si tu veux, ils te mettent en avant tous les faits divers qui sont liés à l'immigration, à l'islamisation du pays, la dégradation du coût du niveau de vie, les coûts économiques que ça engendre, etc. Tous les faits... qui parfois peuvent être mis sous silence, passés sous silence par les médias mainstream, eux vont au contraire les mettre en avant et pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, sur Internet et pour qu'on en parle. Et j'en oublie un petit dernier, le Salon Beige, qui lui est très orienté catholique, plutôt traditionnaliste. Pour l'actualité religieuse chrétienne...
En fait, ils ont une haine de l'être historique de la France et de l'Europe, et notamment de l'être chrétien de la France et de l'Europe. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc, le moyen le plus simple de les submerger, c'est de les remplacer. Mmh. Donc, évidemment, on ne tue bien que ce qu'on remplace.
Pareil, ils ne produisaient aucun contenu, c'est une revue de presse. Mais au moins, pareil, les infos qui sont relayées là-dessus sont globalement fiables.
Mais par exemple, si je te dis Radio France, France Télévisions... les médias publics, tu les regardes pas ?
Si, je vais les regarder, mais je sais qu'il y aura toujours un biais, des choses qui vont être cachées, qui ne seront pas dites, ou qui vont gêner tel ou tel intérêt de tel ami, de tel financier, etc. Voilà. Ou alors une autocensure à cause des chiens de garde de l'opinion, toutes les associations antiracistes, que ce soit la LICRA, le MRAP, SOS Racisme, etc. Ce sont eux qui, dès qu'il va y avoir un mot de travers qui leur plaît pas, une émission qui va être un peu trop complaisante pour ce qu'ils appellent le camp nationaliste, l'extrême droite, etc., eh ben, ils s'autorisent à porter plainte. Et souvent obtiennent gain de cause. Il y a une autocensure, il y a une censure et une autocensure sur les médias traditionnels qui n'existent pas sur Internet. Et c'est pour ça d'ailleurs que Internet est régulièrement la cible des législations, des gouvernements qui veulent essayer de verrouiller la parole sur Internet.
Tous ces médias que tu viens de me citer, Télé Liberté, oui. Radio Liberté, F de Souche, Égalité et Réconciliation, oui. Le Salon Beige, oui. Tu les qualifies comment ?
Je les qualifie de blogs indépendants. Donc indépendants de toute influence politique, indépendance financière, pas de publicité, que du mécénat, des dons de particuliers. Une grande liberté de ton, de parole, de... Alors après, c'est sûr, ils ont une certaine vision de la France, une certaine vision de la religion catholique, chrétienne, etc. Mais ils relaient des informations que tu ne retrouves pas ailleurs, ou alors ils mettent en avant des informations que tu vas retrouver peut-être en page 10 ou 15 d'un média traditionnel.
Réinformation, ça veut dire quoi pour toi ?
Réinformation, c'est tout simplement partir du réel, de ce qu'on observe, de ce qui se passe. En fait, c'est très dur pour un journaliste. Pour moi, je considère qu'un journaliste, non seulement il doit dire ce qu'il voit, mais plus, encore plus difficile pour lui, il doit voir ce qu'il voit, c'est-à-dire enlever les œillères qui lui ont été imposées dans son école de journalisme ou autre. Et voilà, tout simplement observer la réalité et pas partir de grands principes comme quoi l'immigration c'est forcément une chance pour la France, que l'Union européenne est forcément bénéfique pour les nations et que si on quitte l'Union européenne ça va être la catastrophe et la Troisième Guerre mondiale, etc., etc.
Mais pourquoi réinformer ? Parce que le terme réinformer, ça veut dire...
Ça part du principe que les médias mainstream nous désinforment. C'est remettre l'information et l'actualité à l'endroit.
Louis l'Orphelin, c'est un pseudonyme et un nom de plume, répondait à Marie-Stéphanie Servos de l'Atelier des médias. La version longue de cet entretien est à retrouver sur l'Atelier et sur SoundCloud sous le titre « J'ai rencontré Louis l'Orphelin, consommateur et producteur de la réinformation ». Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage, David Doucet. Est-ce que tu souhaites déjà réagir ? Je vais t'interroger sur certains des faits.
Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il a une vision des journalistes qui ne verrait pas le réel, qui serait totalement aveugle. Et d'un autre côté, lui, comme beaucoup de gens qui sont des lecteurs de la fachosphère ou des producteurs de la fachosphère, il ne souhaite pas de contenu qui contredirait sa vision du monde. Du coup, il va sur des sites qui d'ailleurs se nourrissent presque exclusivement de contenus qui sont produits par les médias traditionnels, mais qui sont passés au tamis et qui reflètent que des contenus sur l'immigration, l'islam. Donc du coup, il a une vision biaisée, forcément, parce que, enfin, on pourra en reparler, mais effectivement, il n'a accès qu'à une partie de l'information, mais il ne souhaite pas lire ou aller sur d'autres sites. Donc du coup, il reste dans son... entre guillemets, son ghetto, quoi.
Et ce qui est étrange, vous consacrez votre premier chapitre à F de Souche, donc ce blog emblématique de entre guillemets, la fachosphère. Ce qui est étrange, c'est que donc Louis dit il y a des faits qui sont passés sous silence, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. La plupart des faits qui sont répercutés sur F de Souche et d'autres sites du même genre, ce sont des faits qui sont trouvés dans la presse traditionnelle, souvent la presse locale. Alors, ce qu'il leur reproche, c'est d'être des faits qui sont considérés comme des faits divers, donc qui ne font pas la une. Mais pour eux, ce sont des faits plus importants qui devraient faire la une, qu'ils dénoncent, etc. Mmh. Et donc, qui sont passés sous silence. Pour eux, ce qui n'est pas le cas.
C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'un fait divers, qui mettrait en cause quelqu'un qui serait d'origine immigrée, pour eux, c'est une information de première main parce que ça corrobore le discours du Front National sur le péril de l'immigration et tout ça. Donc, ils reprochent aux médias de ne pas mettre assez en avant tous ces faits divers. Et c'est ce qu'a fait Laurent Oberton dans son livre « La France mécanique » dont parle Louis Orphelin. Il a cumulé tous ces faits divers pour montrer qu'effectivement, il y a un grand danger, etc. Bon, c'est une lecture politique. Idéologique, c'est pas une lecture journalistique.
Il y a une recherche d'effet de loupe.
Oui. En fait, oui, F de Souche fonctionne sur l'effet de saturation. C'est-à-dire qu'il répète 10 000 fois le même message. Il va compiler tous les articles concernant l'immigration, l'islam, l'insécurité. Et lui-même le dit quand j'en ai parlé avec lui pour ce livre.
Donc F de Souche, c'est un collectif, mais ça a été lancé par un monsieur qui s'appelle Pierre Sautarel, oui. Qui a accepté de répondre à vos questions, alors qu'il refuse. Moi, je lui ai demandé donc d'intervenir, par exemple, pour répondre à des éléments que vous mettez dans votre livre. Il n'a même pas daigné répondre à mes messages.
Il est plutôt réticent vis-à-vis des médias, et c'est vrai qu'il ne souhaite pas non plus être trop mis en avant. Mais il me disait que lorsqu'on va sur F de Souche, lui, il voit ça comme un laboratoire, presque une école de formation, F de Souche. En gros, il me disait, on va 3 ou 4 mois sur F de Souche, vous avez compris le message qu'on souhaite faire passer, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'immigration, avec l'islam, que la société multiculturelle, ça ne marche pas. Il me dit, après, ça ne sert à rien de lire F de Souche. Lui-même, je ne suis pas sûr qu'il lise son blog tous les jours. Ça n'a aucun intérêt de lire des faits divers chaque jour qui sont mis en épingle par ce site. C'est quelque chose qui a une ambition idéologique, et puis ça fait que conforter des gens qui ont déjà ces opinions, en fait.
On a également demandé à Louis L'Orphelin s'il avait une question à vous poser.
Je leur demanderais s'ils en ont pas marre d'avoir des œillères, en fait. Enfin, je sais pas, moi je les invite à faire un séjour en immersion dans une banlieue bien chaude pour se rendre compte de la réalité, ou alors de partager le quotidien des petits agriculteurs au fin fond du Pas-de-Calais pour comprendre pourquoi ils votent Marine Le Pen, quoi. Voilà, de faire des vraies enquêtes de terrain, et parce que leur bouquin, finalement, c'est un tissu d'amalgame de préjugés et d'infos, finalement, assez peu fouillées. C'est-à-dire qu'ils ont fait un petit tour sur 3 sites internet. Ils ont repéré 3 tweets qui leur semblaient un peu outranciers. Puis à partir de là, ils ont fait leur mayonnaise à eux, quoi. Mais voilà, arrêtez d'avoir une pensée hémiplégique, quoi, de toujours pencher à gauche et aussi de comprendre les gens d'en face, quoi.
David Doucet.
On voit déjà qu'il n'a pas lu le livre, mais c'est assez intéressant. Par exemple, sur la page Amazon du bouquin, on voit que...
Il y a des commentaires, des choses comme ça.
On voit que la plupart des gens qui commentent disent « je ne lirai pas le livre, mais c'est un tissu d'amalgame ». C'est toujours assez drôle dans la part de quelqu'un qui dit qu'on a des œillères. Mais je suis le premier à le dire, on a tous héritier d'un environnement familial, on a tous des a priori sur les uns et sur les autres. Mais... je pense que dans ce livre, on a été ouvert à la critique. D'ailleurs, la plupart des gens qu'on a interrogés, je parle des personnages dont on fait le portrait, ont reconnu que le bouquin est plutôt honnête. Et d'ailleurs, on leur donne la parole, on met en perspective les faits. Mais effectivement, c'est vrai que lorsqu'on est journaliste, durant longtemps, il y a eu un traitement moral du Front National. Donc là, je suis d'accord. Aujourd'hui, bon, on essaie d'avoir peut-être un traitement plus distancié, plus neutre, parce qu'on voit que c'est pas un traitement qui a fonctionné.
On va marquer une courte pause, David. On se retrouve dans un instant pour continuer cette émission sur la fachosphère.
Parlez-vous pas.
Atelier des médias, merci de nous rejoindre. Si vous n'étiez pas là dans la première partie, nous sommes cette semaine avec David Doucet, auteur de La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net, publié chez Flammarion.
RFI.
David Doucet, nous allons revenir aux médias de la fachosphère, mais avant cela, peut-être un détour par le Front National pour parler du rôle qu'a joué Internet dans la stratégie, dans le développement de ce parti politique, qui est, rappelons-le, le premier parti à l'échelle nationale à avoir eu un site Internet, c'était en 1996.
Deux semaines avant les Verts, Yves Cauchet, qui était à l'époque responsable des Verts, m'a dit qu'il avait bien du mal dans un bureau national, il voulait essayer de convaincre ses camarades de se mettre sur Internet, et quelle ne fut pas sa surprise quand il voit que c'est finalement le Front National qui peut avoir l'image d'un parti autoritaire, un peu ancré, assez loin des nouvelles technologies, qui est finalement le premier à avoir investi la toile. Et c'est vrai que le Front National a toujours été prescripteur dans les usages, parce qu'ils ont toujours eu le sentiment d'être ostracisés dans les médias traditionnels, de ne pas avoir la voix à la télévision, d'être maltraités. Du coup, ils ont toujours cherché des moyens détournés. Alors, il y a le Minitel, ils ont été aussi l'un des premiers à avoir un site Minitel. Ils ont même, on raconte, bon, c'est plus de l'ordre de l'anecdotique, mais c'est assez drôle, qu'ils avaient créé un jeu vidéo sous la forme de Pac-Man, où on voyait Jean-Marie Le Pen échapper à des dirigeants d'associations antiracistes. Ils ont toujours fait preuve d'énormément d'imagination pour à la fois parler à leur lectorat et contourner les médias.
On va écouter justement, pour donner une idée, ce que disait Marine Le Pen le 1er mai dernier lors d'un discours adressé à ses fidèles porte de la Villette à Paris.
Internet nous donne aujourd'hui un moyen phénoménal de convaincre de plus en plus de Français. Avec les réseaux sociaux, on peut court-circuiter les médias traditionnels. Mais pour cela, il faut que chaque militant s'empare des réseaux sociaux pour convaincre. Je le vois tous les jours. Vous tous, sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, vous faites vivre le débat. Vous êtes intelligent, vous êtes drôle, vous êtes convaincant. Vous ne correspondez pas à l'image que les médias veulent donner de vous. Pour 2017, j'espère que grâce à Internet, vous serez une redoutable force de frappe démocratique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'avant de monter sur cette scène, il ne nous manquait que, je crois, 94 abonnés pour atteindre le million de soutiens sur Facebook.
On l'entend, c'est encore valable aujourd'hui. Il y a toujours eu une attitude très ouverte vis-à-vis d'Internet de la part du Front National parce que c'était, elle le dit encore, une opportunité pour, donc maintenant elle dit pour, parce que les médias déforment, les médias ne nous donnent pas assez la parole, mais c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Ça l'était certainement plus à la fin des années 90. Oui.
C'est vrai que à la fin des années 90, bon, ils utilisaient même, par exemple, la VHS ou ça a été l'un des premiers partis où elle a utilisé des cassettes pour les envoyer directement à leurs militants et comme ça, on passe le filtre des médias traditionnels. Donc, ils ont toujours eu cette imagination et c'est vrai que du coup, peut-être qu'ils ont été en avance sur les autres, et c'est vrai qu'aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, comme elle le dit, ils ont une présence qui est affirmée et supérieure à d'autres partis politiques.
Et en même temps, vous le rappelez, c'est une arme à double tranchant, parce qu'il y a aussi beaucoup de luttes intestines, notamment entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, et ces luttes, on les retrouve bien entendu sur les réseaux Internet.
Paradoxalement, c'est vrai que, alors qu'aujourd'hui, on la voit même dans des émissions de talk show, on la voit dans une émission comme une ambition intime, ce qui n'aurait pas été imaginable par le passé, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi ? Parce que ça montre aussi la radicalité de la base militante. On voit de nombreux dérapages, etc. Du coup, ils essayent aujourd'hui de contrôler très fermement la parole de leurs ouailles. On voit qu'à chaque maintenant élection, il y a un formulaire qui est envoyé à tous les candidats pour leur dire « Attention, vous ne devez pas mettre ça sur votre page Facebook, sur Twitter. » Tout est contrôlé, tout est verrouillé. Il y a même une équipe au sein du QG du Front National qui est dédiée exclusivement à la vérification de tous les profils Facebook et Twitter, parce qu'ils se rendent bien compte que là, il y a aussi matière pour les journalistes ou les médias de voir la réalité, en fait, entre le discours dédiabolisé que tient Marine Le Pen et ce que pensent les gens qui militent pour elle.
Vous explorez dans votre livre l'histoire un petit peu de cette fachosphère, vous revenez sur des sites qui ont disparu aujourd'hui, comme SOS Racaille, vous parlez d'un personnage, Joël Sambuy, qui est très peu connu, mais qui a joué un rôle moteur, peut-être un mot d'ailleurs sur cet homme.
Oui, c'est quelqu'un qui fut l'un des premiers promoteurs d'un grand site d'extrême droite. SOS Racaille, finalement, tout est déjà là dans ce site qui, à la fin des années 90, un peu sous le mode de F de Souche, mais avec un ton beaucoup plus corrosif, mettait en avant les thèmes d'immigration. Mais en fait, alors que l'extrême droite est très plutôt dans la critique de, comment dire, de, du monde juif. C'était encore une extrême droite assez antisémite. Lui, il est déjà dans la critique de l'islam. Il est dans l'après-choc des civilisations. Et on voit que le discours, la ligne éditoriale des SOS Racaille, on voit des similarités avec le discours de Marine Le Pen aujourd'hui. Et cet homme, qui est un homme assez obscur, qui est à la fois un magouilleur, qui est à la fois...
Qui a été condamné.
Il a réussi à échapper à la justice française en partant à Moscou. Donc c'est quasiment un polar, son histoire. Et on s'est rendu compte, en ayant accédé à quelques sources judiciaires, que ce site avait incité Maxime Brunnery,
qui était un militant
d'unité radicale, de tenter d'assassiner Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Et on a des échanges entre Brunnery et ce Joël Sambuy. Donc on voit déjà que à l'époque, la fachosphère avait un rôle et un moyen de peser sur le réel.
Un des traits communs de cette fachosphère, c'est l'anti-islam. Vous venez de le rappeler, donc avec Joël Sambuy qui était un peu précurseur. Il reste quand même des bastions de l'antisémitisme. Il en reste deux, incarnés par deux personnages très forts. Dieudonné et Soral, vous leur consacrez ensemble un chapitre que vous avez titré « Dieudonné, Soral et le business de l'antisémitisme ».
Oui, ils ont fait... c'est même un échange de mails entre eux qui avait été diffusé.
Ils s'engueulaient
parce que Soral avait repris le terme « quenelle » et on avait fait un commerce sur son site. Et ils se reprochaient « bon, bientôt, il faudra payer des droits pour être antisémite », disait la femme de Dieudonné à Soral. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux sites... Enfin, Dieudonné, il fait plus que des vidéos YouTube, mais Égalité et Réconciliation, ce n'est pas simplement un site où Soral donne sa vision du monde. Il vend beaucoup de livres, même des anciens de livres d'écrivains qui ont été marqués par des propos antisémites, genre, je sais pas, Rebatté. Bon,
avec sa maison d'édition
Contre-Culture, même du vin bio. Donc on voit qu'il y a tout un commerce qu'il arrive à tirer de sa vision du monde.
Pour ne pas utiliser le mot business qu'on retrouve également chez Dieudonné. Il a lancé justement Anan Assurance, il a lancé également une société de crédit, Anacrédit, etc. Enfin, il fait des jeux de mots, Ananacrédit, donc avec le mot ananas.
Oui, et puis avec la chanson d'Annie Cordy qu'il avait repris. Et on discutait avec quelqu'un qui était très proche de François Hollande parmi ses conseillers politiques. Il me racontait que François Hollande était littéralement tombé de sa chaise quand il avait vu les chiffres des vidéos de Dieudonné. C'est-à-dire, François Hollande a dit qu'il y a véritablement quelque chose qu'on n'avait pas perçu. C'est quand on a une vidéo de l'Élysée qui fait péniblement 3 ou 4 000 vues et qu'à côté, on a quelqu'un comme Dieudonné qui inspire pas mal de jeunes, et notamment des jeunes des quartiers, et qui leur donne sa vision du monde, ça fait des dégâts considérables. Et aujourd'hui, bon, l'éducation est en train de mettre en place des séances avec les enseignants pour répondre justement à cette montée du complotisme et de l'antisémitisme. Mais c'est un vrai fléau sur lequel je pense que l'État a mis du temps à réagir.
Vous consacrez également un chapitre que vous appelez « Les petits soldats de la réinformation » à la manière dont a été peut-être conceptualisée cette façon de voir les médias aujourd'hui. Il y a eu un personnage instrumental qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou. Tu l'as cité plusieurs fois. Qui a donc participé au GRES, qui était donc une sorte d'observatoire dans les années 60-70. Il a également cofondé le Club de l'Horloge, donc qui était un think tank, comme on dit, pour penser le futur, etc. Et il a également créé plus récemment un think tank qui s'appelle Polémia, qui remet notamment chaque année ce qu'ils appellent des bobards d'or, donc aux médias qui désinforment le plus à leurs yeux.
Oui, Jean-Yves Le Gallou, c'est un énarque, c'est quelqu'un... un intellectuel, on peut dire, brillant dans son genre, avec ses idées, mais c'est quelqu'un qui fourmille d'idées. Il ne peut pas passer une journée sans rien faire. Et il a vécu une traversée du désert politique parce qu'il avait pris le parti de Bruno Maigret lors de la scission au Front National en 98. Donc il s'est retrouvé à être retraité politique un peu avant l'heure. Et puis il s'est réinventé sur Internet. Il a créé tous ces sites dont tu as parlé. Il a aussi créé cette cérémonie des bobards d'or qui récompense un peu tous les journalistes qui auraient commis des erreurs durant l'année. Et c'est vrai qu'il a renouvelé la critique des médias à l'extrême droite. Il l'a professionnalisé, et c'est une sorte aussi un peu de Talleyrand. C'est un diplomate de la fachosphère, il met les gens en relation, c'est lui qui par exemple
un facilitateur,
c'est lui qui à un moment présente Robert Ménard à des blogueurs, et c'est à ce moment-là
Robert Ménard, ex-militant pour les journalistes et la liberté d'expression, qui est
aujourd'hui
devenu maire d'extrême droite de Béziers.
Et il lui a présenté des blogueurs, et quelques temps après, naît Boulevard Voltaire, donc le site créé par Robert Ménard. Et il y a plein d'idées comme ça qu'il a lancées. On pourrait citer aussi l'OGIM.
Oui, c'est important. Donc, c'est un observatoire des journalistes et de l'information médiatique qui se présente comme un véritable observatoire, extrêmement neutre, etc. Et si on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est un observatoire qui sert également de lieu de réquisitoire contre les médias parisiens, etc. Et...
En fait, oui, et c'est aussi une idée qu'avait un peu soumise Jean-Yves Le Gallou. C'est un site au design assez propre, sur lequel effectivement il n'y a aucune mention d'un biais politique, mais c'est vrai que lorsqu'on lit les fiches, parce que c'est des sortes de portraits de journalistes, leur objectif c'est de montrer que tous les journalistes obéissent à des intérêts militants, à des intérêts économiques, et donc ils vont fouiller dans la vie des journalistes, et s'ils trouvent un journaliste qui aurait eu, je sais pas, qui aurait milité un an à l'UNEF en 66, hop, il est totalement discrédité, c'est un gaucho.
Alors donc, sur ta fiche, ils te citent, disant que tu n'utiliseras jamais le mot fachosphère, je crois. Ouais. Ils n'ont pas mis à jour depuis la sortie du livre.
Ouais, ils n'ont pas mis à jour, ils vont le faire peut-être plus tard. Le terme de fachosphère, c'est vrai que je ne voulais pas l'utiliser, et Dominique était d'accord avec moi sur le fait que...
Donc
c'est
Dominique
pas
Albertini, le co-auteur.
Pardon, qui est co-auteur avec moi du livre, parce qu'on trouvait que c'était un terme qui n'était pas scientifique, mais vu qu'il est tellement repris par les médias, qu'on a été obligé de s'appuyer dessus pour le décortiquer, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre.
Alors, toujours sur l'OGIM, hein, on peut lire un portrait très élogieux d'Éric Zemmour, donc qui est avant tout, il le précise, un très grand journaliste politique, etc.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il reproche aux journalistes leur engagement. Et ils mettent sur un piédestal des journalistes très engagés comme Éric Zemmour, comme Robert Ménard, comme Eugénie Bastier, même des journalistes qui peuvent avoir écrit ou fait des articles tout à fait intéressants, mais qui sont surtout connus pour être des journalistes très engagés sur les réseaux sociaux pour Eugénie Bastier ou sur les plateaux de télévision comme Éric Zemmour.
Jean-Yves Le Gallou, on le retrouve également sur une chaîne qu'on a évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui qui s'appelle TV Liberté, qui est présidée par Philippe Millot que vous avez interrogé et qui est dirigé pour sa rédaction par Martial Bild qui a accepté de répondre à nos questions. Et je l'ai tout d'abord interrogé sur votre livre, ce qu'il en avait pensé. On l'écoute.
La première chose, c'est que j'ai effectivement, que ce soit Philippe Millot, le président de la chaîne, ou moi, nous avons rencontré les deux auteurs de l'ouvrage et que chacun peut écrire ce qu'il le souhaite. Donc moi, je n'ai pas d'avis à donner sur cet ouvrage. À un seul détail près, mais qui a son importance, c'est que quand le projet nous a été présenté, il n'a jamais été présenté sous le titre générique du mot fachosphère. Je comprends très bien l'intérêt commercial qu'on peut avoir à utiliser ce terme, mais c'est un terme guerrier, c'est un terme qui est un terme clivant, désobligeant, injurieux, même péjoratif, et qui n'était pas indiqué dans le projet. Donc je trouve que ça n'était pas très honnête. Et puis ce terme ne veut rien dire, c'est un fake word.
Un faux mot.
Oui, c'est un faux mot, oui, pardon, défenseur de la langue française, mais c'est un faux mot, c'est un fake word, comme il peut y avoir des fake news, il y a des fake words, c'est-à-dire des mots qui ne regroupent absolument pas une vraie réalité. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il faut parler, ce sont des médias alternatifs, et les médias alternatifs ne sont pas, bien évidemment, enquillés sur le terme de fachosphère. Il y a des dizaines de médias alternatifs, dont certains se projettent comme des médias citoyens à gauche, voire à même à l'extrême gauche. Le terme média alternatif est bien évidemment beaucoup plus concluant parce qu'il y a trois notions qui peuvent regrouper l'ensemble de ces médias et qui en font une certaine cohésion. C'est à la fois la liberté d'esprit, c'est la liberté économique et c'est la liberté politique. Or cela, ces trois notions-là mettent les médias alternatifs en dehors des autres, car les grands médias de la presse, les grands médias classiques, sont bien évidemment soumis soit à un moment à un modèle économique, soit à un modèle politique, soit à un modèle de pensée qui les met dans une situation de soumission. Voilà. Quand on est un organe de l'État, on a un employeur qui est l'État.
Et il y a un autre terme qui apparaît dans le livre au début, qui est un terme qui existe aussi, qu'on utilise également, qui est le réinfosphère. Est-ce que là, vous vous identifiez plus ?
Moi, je ne me fiche des mots, monsieur. Mais alors, complètement, c'est pas le sujet. Chacun trouvera le terme qu'il souhaite. Moi, je donne la notion qui est la mienne. Je crois aujourd'hui qu'il y a une véritable dépréciation des médias classiques, dits mainstream, et que face à cela, et au lieu de réfléchir à quelles sont les raisons de cette désertion des Français à l'égard de certains médias, voire de la retenue qu'ils ont à l'égard d'autres, au lieu de réfléchir à cela, on essaie de se créer un spectre qui permettrait de faire peur. Bon, j'en suis pas là. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui, le mensonge a été celui de certains médias depuis très longtemps affirmé, qu'il y a une doxa qui est transportée par l'ensemble des médias, que face à cela, il y a des faits alternatifs, faits contraires au mensonge. Et que ces faits alternatifs, nous les développons.
David Doucet, alors média alternatif au lieu de fachosphère.
Oui, bah c'est sa vision du, c'est sa vision, je veux pas lui enlever, mais
il parle assez Martial Bild, hein, je l'ai pas rappelé. Donc...
Il parle assez peu du contenu livre, il retient juste le titre. Mais par exemple, Jean-Yves Le Gallou, qui travaille avec lui à Télé Liberté, m'avait dit, vous serez obligé d'utiliser le terme fachosphère pour votre livre parce que tout le monde l'utilise et c'est le truc le plus percutant. Vous êtes obligé d'en le décortiquer par la suite. Après, sur ce qu'il dit, effectivement, je suis d'accord sur le fait que les médias doivent s'interroger sur la montée de la défiance de l'opinion vis-à-vis d'eux-mêmes. Et eux, ils en tirent parti. Mais le problème, c'est qu'ils n'essayent pas de corriger les erreurs qui pourraient être commises ou le biais des journalistes. Ce qu'ils veulent, et j'avais une discussion avec Jean-Yves Le Gallou là-dessus, lui, est-ce que vous voulez nous aider à nous améliorer? Et à la limite, toutes les critiques sont les bienvenues. Hein. Peu importe si on fait des erreurs, il faut les mettre sur la table. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est dissoudre le système médiatique pour le remplacer. Et le remplacer par quoi? Par des médias qui sont totalement engagés. Donc ils nous reprochent des biais à limite idéologiques, alors qu'eux ont une vocation militante.
J'ai regardé justement TV Liberté, une chaîne très riche, il y a plusieurs émissions, un journal quotidien. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait du journal du 10 mars dernier. Voilà le sujet qui ouvre cette édition, présenté par Olivier Frère-Jacques.
Lever le tabou des enfants intersexes, c'est la mission que se sont donnés deux sénateurs de gauche, Marie-Yvonne Blondin du Parti Socialiste et Corinne Bouchou d'Europe Écologie Les Verts. Ces dernières s'interrogent dans un rapport rendu le 7 mars sur les opérations menées sur des enfants pour leur assigner un sexe masculin ou féminin et proposent d'ouvrir la voie à des réparations financières pour les individus ayant subi des opérations non voulues. Outre l'indemnisation de ces personnes pour toutes les opérations de la deuxième partie du XXe siècle, les deux sénateurs souhaitent lancer un débat sur la question, entendre un débat qui concerne une infime minorité des naissances et surtout un débat sur le choix du sexe. De là à revenir sur les thématiques de genre, il n'y a qu'un pas.
Alors, je n'ai pas choisi ce sujet par hasard, David Doucet. Il montre pour moi le style TV Liberté, en tout cas de son journal. On prend un fait d'actualité. Au lieu de le creuser, on le minimise pour parler d'une question plus importante aux yeux des rédacteurs. Le fait d'actualité, c'est la publication d'un rapport co-signé par deux sénatrices sur l'intersexualité. Et la question plus importante pour les rédacteurs, c'est celle du genre. Pour la mettre en avant, il balaie le combat actuel des sénatrices et il leur prête des intentions diverses en se fondant sur le parcours de ces dames. Je note que ces sénatrices ne sont pas interrogées et que le contradictoire indispensable à la production d'un journalisme honnête n'est pas respecté par ce journal. J'ai bien sûr interrogé Martial Bild sur cette question.
Non, moi je pense qu'il y a toujours une contradiction. Parce que journalisme correct, permettez-moi de vous dire que les gens qui ont manifesté à plusieurs millions, juste à côté de nous d'ailleurs, ici...
De demander aux personnes à qui on prête des intentions quelles sont leurs intentions ou de les confronter à nos idées.
Ce qui est important, c'est qu'elles soient respectées dans leur dignité. Ce qui est toujours le cas dans le journal télévisé. Ça me paraît être une nouvelle fois la Charte de Munich et c'est aussi une obligation. Ensuite, que nous ne soyons pas totalement d'accord avec cela, nous le faisons savoir. Mais je cherche toujours à ce que le débat s'effectue. Il faut-il encore que les contradicteurs acceptent de venir parce que c'est aussi très difficile que de pouvoir mettre en action son point de vue avec des gens qui ne le partagent pas. Car souvent, on est dans le milieu de la gauche, dans l'entre-soi. Et comme on est dans l'entre-soi, on a du mal à aller ailleurs pour se coltiner à la réalité. La réalité, c'est que vous n'êtes pas majoritaire. La réalité, c'est que les gens ne pensent pas comme vous. La réalité, c'est que vous pouvez, du débat, apparaître comme minoritaire. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une crainte parce que, une nouvelle fois, les médias mainstream interrogeant toujours les mêmes, eh bien, il y a la forme de conformisme, une forme de confort tout court qui s'installe et je me désole moi de ne pas avoir assez de contradicteurs, mais quand Madame Rivasi, qui était la finaliste des écologistes, vient dans notre émission Santé pour porter le fer et dire des arguments qui ne sont pas ce que je pense, eh bien je trouve que l'on progresse, elle et moi.
Par souci de précision, j'ai contacté les équipes de la sénatrice Corinne Bouchou qui m'ont confirmé n'avoir jamais été interrogée par TV Liberté. J'ai essayé de contacter Olivier Frère-Jacques qui présente ce journal et qui a produit ce sujet, en tout cas je ne sais pas qui l'a produit parce qu'il n'y a pas d'autre nom, qui ne m'a pas répondu. David.
Oui, c'est vrai qu'ils fonctionnent. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent parfois avoir des difficultés à obtenir des interlocuteurs, mais là, il se trouve que je ne pense pas qu'ils aient fait la démarche pour essayer de l'avoir. Je pense qu'effectivement, et vous l'avez bien décrit, ils fonctionnent sur un principe de partir d'un fait pour ensuite nourrir leurs convictions, nourrir leur vision du monde. Et c'est tout à l'heure quand il disait qu'il n'a pas de contraintes de liberté économique, que c'est un journal totalement libre. On a interrogé dans le livre quelques membres de Télé Liberté. dont un qui anime une émission de géopolitique et qui nous disait très clairement qu'il ne pouvait pas critiquer la Russie parce que la Russie fonctionne, a besoin de relais en France, bon, notamment avec Russia Today, mais il cherche aussi des médias amis comme Télé Liberté. Et lui, ce présentateur d'une émission géopolitique de Télé Liberté, disait très clairement que de l'argent russe avait coulé à Télé Liberté et qu'aujourd'hui c'était très compliqué d'avoir une opinion anti-russe et que véritablement la Russie aide cette Télé Liberté à poursuivre son développement.
J'ai posé la question sur ce sujet à Martial Bill qui m'a dit que c'était faux. On le saura peut-être un jour. Je lui ai également demandé s'il avait une question à vous poser.
Moi, si j'avais une question à poser, elle est simple. Dominique Albertini, David Doucet, moi, je vous ai invité à TV Liberté. Vous ai invité à venir parler de votre livre et à respecter votre point de vue. Ni l'un ni l'autre n'avait osé venir. Vous avez même décliné, l'un d'entre vous a décliné l'invitation. L'autre n'a pas donné de réponse. Et moi, je suis prêt à vous inviter. Je note quand même aussi que sur le plateau que vous êtes en train de faire, Monsieur Malouf, moi, je ne suis pas invité à venir. Je suis enregistré de façon à ce que mes propos soient bien canalisés et bien calibrés. Pourquoi vous avez peur ? Ben, n'ayez pas peur.
Donc c'est la question de Martial Bild. Alors si je l'ai gardée, d'abord il m'a fait promettre de garder cette question et de garder la critique vis-à-vis de cette émission. C'est parce que c'est vrai que ça pose question. Est-ce qu'on doit participer à ce type de médias ?
En fait, je me suis vraiment posé la question et j'avais envie d'y aller en fait, mais. Ce qui est compliqué, c'est que à partir du moment où je les ai interrogés, je me disais que c'était aussi normal de répondre à leurs questions. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans un débat politique face à des gens qui, comme Martial Bild, c'est Martial
ancien
Bild,
du Front National,
ancien cadre du Front National, patron du FNJ, quelqu'un qui est qui est un militant de très longue date, qui a 20-30 ans,
renoncé à sa carrière politique.
Mais qui n'est pas, il essaie de se reconvertir dans le journalisme. Mais bon, c'est pour moi un militant politique. Donc avoir un débat face à un militant politique, moi je ne suis pas encarté. J'ai fait le choix de ne plus voter. On peut discuter ou pas, parce que j'estime qu'un journaliste doit être neutre et c'est similaire à une fonction sacerdotale et que je me bats pour une neutralité dans ce métier. Alors je commets moi-même des impairs de temps en temps, mais me retrouver face à un militant politique qui veut en gros me faire passer pour un journaliste de gauche qui agit à charge, je sais pas s'il aurait eu un très grand intérêt. Moi, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est après la sortie de ce livre, c'est que j'ai appelé tous ces gens. Je leur ai dit Jean-Yves Le Gallou, Pierre Sautarel. J'ai eu des discussions avec eux. Je leur ai dit, est-ce que vous regrettez la confiance que vous nous avez donnée en répondant à nos questions? Est-ce qu'on a tronqué vos propos? Est-ce qu'on a dévalorisé? Et la plupart ont répondu que le livre était objectif.
À cause de vous, ou grâce à vous, je me suis un petit peu plongé dans cette fachosphère, j'ai un peu navigué. Y a quelques points communs qui ressortent, je veux bien quelques mots de commentaires parce qu'on va conclure. Y a évidemment, ça c'est systématique, une haine très forte des médias institués, des médias traditionnels, des médias mainstream.
Oui, ça c'est sûr, on est leur adversaire numéro un et celui qu'il faut abattre.
À laquelle on peut ajouter une forme de jalousie de la puissance de ces médias et peut-être même une sorte de complexe d'infériorité, c'est-à-dire que presque tous les sujets par exemple de TV Liberté commencent par dire les médias n'en parlent pas, les autres médias n'en parlent pas, etc. Comme si finalement c'était extrêmement important que les autres en parlent, alors que bon, aujourd'hui grâce à Internet, ils sont presque à égalité.
De contenu, voilà. Oui.
Tout le monde est diffuseur aussi et massivement.
Il y avait un article de Libération que je trouvais très intéressant, qui s'appelait « Comment Facebook nous post-informe ». Et il montrait justement que des vidéos de Télé Liberté étaient parmi les 30 vidéos les plus vues ces derniers mois. Plus que des vidéos de Desinrock, de Libération,
etc. Ils étaient en troisième position.
Ils étaient en troisième position. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, ils arrivent à se faire entendre. Donc, je vois pas l'intérêt de ça.
Alors, autre chose, l'emploi très régulier du conditionnel. Malheureusement, on l'emploie aussi beaucoup dans la presse dite traditionnelle. Le principe du contradictoire qui est bafoué presque systématiquement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pratiquement jamais voir les personnes dont ils parlent pour leur demander ce qu'elles pensent de ce qu'eux-mêmes pensent. Anti et leur posture. Donc anti-musulmans pour l'immense majorité et anti-sémites pour une petite minorité qui fait quand même beaucoup de bruit. Anti-système pour tous, ça c'est
oui.
Sûr.
Oui, ça c'est sûr. Bah, dans le système, ils nous mettent les médias, la classe politique et effectivement, c'est leur adversaire. Eux, comme ils se vivent comme une contre-société, l'adversaire, c'est le système.
Une question pour finir que je me suis posée, peut-être as-tu une réponse, David. Quel genre de pros seront-ils si un jour leurs idées venaient à conquérir le pouvoir, ces médias? À tes yeux.
Bah, je pense qu'ils ressembleront peut-être à Breitbart News, le site américain. Média pro-Trump. Par exemple, Pierre Sautarel me disait, bon, il fonctionne, c'est quasiment que des bénévoles, il n'y a aucun titulaire ou salarié. Et il me disait, ce dont je rêve, c'est d'un média à la Breitbart, c'est-à-dire d'avoir les moyens de faire des vidéos, d'avoir des moyens de salarier les gens.
Breitbart News, qui était supposé arriver en Europe rapidement, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles.
Ils ont contacté quelques personnages de la fachosphère, justement, pour être des relais, des producteurs de contenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il devait arriver au début de l'année. Finalement, ça va peut-être être post-présidentiel. Mais je pense qu'ils sont très intéressés par ce qui se passe en France.
Il y a un filon, en tout cas. Merci, David. Merci également à ton co-auteur qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. On trouvera la version longue de cet entretien et des informations complémentaires sur le site de l'Atelier des médias.
RFI.
L'atelier cette semaine a été préparé par Simon Decreuse, Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon, Camille Deloche et votre serviteur Ziad Malouf. Si vous souhaitez rejoindre notre plateforme Mondoblog, sachez que la sélection est ouverte jusqu'à fin mars. Il faut donc faire vite info et formulaire sur mondoblog.org. Salut à toutes et à tous.
Plus 400 ans d'esclavage, ça ne suffit pas et le résultat. Le nouveau millénaire règne encore le même climat. La violence est plus physique, elle est morale et du surpoids. Le peuple noir en est la proie. Vous n'êtes supérieur en quoi que ce soit. Si oui en quoi, vos esprits sont trop étroits. Nous sommes quasiment similaires et en perpétuelle guerre. Ça raconte une différence épidaire. Il y a de quoi faire du souci entre le devenir de l'homme sur la planète. A commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la littérance sans limite et dans l'oubli. Il y a de quoi faire du souci quant au devenir de l'homme sur la planète. A commencer par ce pays dans lequel je vis, où l'on cultive la différence, mais sans l'unité dans l'oubli.